Bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct de l'école de la Deuxième Chance à Nîmes. Nous sommes allés rencontrer une apicultrice et une maraîchère. Et nous avons réfléchi sur nos situations personnelles pour traiter notre thème d'aujourd'hui, la terre nourricière.
Bienvenue dans Radio.
Potage.
La radio du...
Potage.
La radio qui creuse...
Les idées.
La terre.
Et surtout l'appétit.
Potage, il creuse. Bon, vas-y, creuse.
Tu as dit la terre nourricière ? C'est quoi ça ?
Ben, la terre, le monde quoi.
Mais non, la terre c'est le sol, le vivant, la base pour faire pousser les plantes.
La terre nourricière, c'est la terre qui te nourrit.
Qu'est-ce qui détermine vos habitudes alimentaires ?
Oh, ma santé. Je suis un vieux monsieur et donc j'ai beaucoup de petits problèmes.
D'accord.
Mais à part ça, le ciel est magnifique, les jeunes sont beaux et la vie est belle.
Mon cholestérol.
Mes goûts avant tout, ouais.
Qu'est-ce qui détermine mes habitudes alimentaires ? Essayer de manger équilibré ?
Ouais, après moi, ça serait plus au niveau du sport, quoi. En fin de compte, je m'équilibre avec ce que je fais dans mon sport, hein, d'une part, et puis aussi parce qu'une hygiène de vie, quoi. Ah, mais personnellement, j'ai pas une hygiène de vie bien parfaitement.
Quand même.
Ouais, bien parfaitement attiré. Je bois, je fume, je fais du sport. Je mange n'importe quoi. Mais n'empêche, j'évite le McDo, les Quick, tous ces merdes-là, j'y vais pas. Ça, c'est clair.
Ça, c'est clair.
Mais l'aspect, des fois, on regarde, quand tu regardes le truc, le plat, il est pas bon, des fois, en fait. T'as pas envie de le manger, quoi. Et ça y fait, ça aussi, beaucoup, des fois.
Quelle est l'expérience alimentaire la plus marquante que vous ayez connue ?
Ah, je crois que c'est les fruits de mer. Voilà, les fruits de mer.
Ouais,
j'ai été très malade, j'ai attrapé une hépatite, hein, avec les fruits de mer, les hépatites alimentaires, donc avec tout ce qui est les moules et tout ça. Donc je crois que c'est un truc qui m'a brutalisé, et malgré tout je continue à manger des fruits de mer. Mais franchement c'est un truc qui m'a traumatisé, quoi. Traumatisé.
Les pâtes.
Ah, ben voilà.
Beaucoup de pâtes.
Okay.
Le couscous de ma mère. Voilà.
Voilà, c'est le seul, c'est une chose qui m'a marqué, ouais, c'est le chien. Dans des nems. Donc voilà, c'était pas terrible. Dans une roulotte à Tahiti, en Polynésie française. Ouais.
Ah oui ?
Ouais, c'est, on a pris une spécialité d'une roulotte et la viande était un peu forte, donc on a demandé ce que c'était. Et c'était du chien. En fait, ils mangent du chien jaune là-bas, c'est une race de chien. Donc voilà. Voilà, voilà.
Je mets un bon steak frites. Hein. C'est bon, après, voilà, avec ça. Un snack, un bon snack, et voilà.
Bah, lorsque j'étais à l'armée, en fait, j'ai fait de la survie en Guyane. Et là, j'ai vu que c'était difficile de survivre pendant 4 jours sans manger. Et c'est celle-ci qui m'a le plus marqué actuellement.
Apprendre à manger avec une diététicienne, c'est ça. Ça fait du bien, ça fait maigrir, mais ça perturbe le transit. Donc, faut y aller progressivement, mais voilà. C'est mon deuxième enfant, donc pour la première, j'avais beaucoup de kilos à perdre. Et au lieu de faire des régimes yo-yo, j'ai été voir une diététicienne qui m'a appris à manger. Il fallait manger beaucoup, je ne mangeais pas tout ce qu'elle me disait, mais il fallait manger beaucoup et beaucoup de fruits et légumes. Et j'ai perdu 7 kilos en 2 semaines.
Gros stress, trop manger et obligé de faire un régime à cause de mon cholestérol.
Vous savez, j'ai quand même mangé pas mal de bonnes choses. Je peux pas trop vous dire, mais je sais que maintenant, les bonnes choses, je les regarde. Et c'est tout. C'est exactement comme... Écoutez, je suis mariée depuis 47 ans, presque 48. Eh bien, je regarde toujours les jolies femmes, mais ça s'arrête là.
Merci.
Au revoir.
Hé hey maman, on mange quoi ce soir ?
Des pâtes, comme tu aimes mon chéri.
Oh non, ras-le-bol de manger toujours pareil.
Ras-le-bol de manger toujours la même chose. Avec ma mère, c'est toujours trop gras. Du coup, j'ai décidé de cuisiner. En semaine, je me contente de ce qu'elle a acheté pour faire manger. Après, si elle en veut, elle mange. Sinon, elle fait ce qu'elle veut. Le week-end, c'est différent. Je fais les courses au supermarché et je choisis les aliments en fonction de mes envies et de mon budget. J'aime bien cuisiner la viande et les légumes. Et j'aime bien manger. Avant, ma mère avait un petit élevage de poules, de lapins, d'oies. et un jardin potager où je plantais, bêchais, cueillais et désherbais. Ça me plaisait bien, ça me faisait sortir de chez moi. L'été, mes parents achètent directement chez les producteurs en bord de route, et je trouve que les produits sont meilleurs. Je pense que la terre qui nourrit la flore doit être saine. Cette terre qui nous nourrit, nous soigne, nous protège, nous devons la respecter, car c'est elle qui nous héberge, sauf que nous la détruisons avec nos actes au quotidien, nos déchets et notre pollution. Nous pollons la terre et ce qu'elle produit. Respectons la terre nourricière.
Pour moi, la terre nourricière, c'est la terre mère, celle qui nous accueille, qui nous fait respirer, nous offre de quoi vivre.
La terre, c'est la maman. Et les plantes, c'est les enfants. Si ma terre est bien nourrie, j'ai de jolies plantes. Si la maman est bien nourrie, elle fait des jolis petits, des jolis enfants. Alors, je ne me suis pas trop présentée. Moi, je m'appelle donc Jocelyne Faure. Je travaille sur 20 hectares. Ça fait beaucoup de mètres carrés. Ça fait 200 000 mètres carrés. Donc, j'ai 16 000 mètres carrés de serre, de tunnel. C'est-à-dire, c'est un endroit froid, de tunnel froid. Donc, c'est un endroit abrité pour avoir surtout des cultures de printemps et des cultures d'été plus facilement. Et on est en agriculture biologique, certifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quoi dans notre terre. Donc, je ne mets pas n'importe quoi dedans. Donc, on y met du fumier, du compostage, du compost de brebis, particulièrement, pour nourrir la terre, pour qu'il y ait une vie microbienne très importante au niveau de la terre. Donc, il y a beaucoup de petits vers dans la terre et d'autres bêtes qui permettent d'aérer la terre. Et le fait d'être aéré, la terre, donc, ça amène de l'oxygène au niveau de la terre. Et à partir de là, les racines se développent très très bien. Et c'est très important. Parce qu'en agriculture biologique, on n'a pas beaucoup de défense immunitaire sur les légumes, sur les plantes. Et à partir de là, s'il y a une bonne nourriture au départ, eh bien on a beaucoup de chance d'avoir des beaux légumes, enfin des belles plantes. Voilà.
Pour moi, la terre, c'est comme une mère. Je n'ai pas eu l'occasion de la choisir, alors on fait avec ses qualités et ses défauts. Son climat et ses points d'eau. Toute ma vie, elle sera là pour moi. Je pourrai m'appuyer sur elle si j'en ai besoin. Elle me donne à manger et à boire sans rien attendre en retour. Ma mère voudrait me donner des produits frais, mais ils sont détournés, modifiés et emballés. Que nous reste-t-il de vrai? Avec son atmosphère, elle me protège du froid spatial et du chaud solaire. Elle est méchante et injuste parfois, mais comme une mère, elle n'a pas le choix. J'ai l'impression que ma terre est épuisée. À force de l'exploiter pour plus de monnaie, on l'empêche de respirer. Les Indiens crient, on dit un jour, seulement après que le dernier arbre aura été coupé, que la dernière rivière aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été capturé, alors seulement vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
La mer, la terre, la mer, nourricière. Finalement, l'alimentation, la nourriture, ça fait beaucoup appel à ce que l'on ressent. Tu trouves pas, Archie? Ça nous touche et ça nous concerne tous.
Molière a dit « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger ». Quand j'étais au lycée, ma mère me donnait des sous pour que je puisse manger le midi. Mais moi, je préférais m'acheter mes clopes. Petit à petit, j'ai pris l'habitude de ne plus manger le midi et je n'avais même plus faim. Quand je rentrais chez moi le soir, je n'avais pas forcément faim non plus. Pour moi, manger est plus un besoin qu'un plaisir. Je mange parce qu'il faut manger pour vivre. Il y a quand même quelques exceptions, des plats ou des aliments que j'aime manger. Certains fruits, certains légumes ou la charcuterie par exemple. Je ne cuisine pas pour moi, pour me nourrir. Mais par contre, j'aime bien cuisiner pour mes proches. Et j'aime encore plus faire de la pâtisserie. Par contre, je mange rarement ce que je prépare. Quand je suis invitée chez des amis ou de la famille, je mange ce qu'on me sert même si je n'aime pas. Pour moi, le repas est un moment convivial. Et si quelqu'un s'est donné la peine de préparer le repas, la moindre des choses est de manger et de ne pas gâcher la nourriture. En fait, je me rends compte que mon appétit dépend de mes émotions. Depuis le lycée, je mange presque rien. Je suis souvent dans un état de faiblesse et mon état de santé ne me permet pas de faire ce que je veux. Mais je m'y suis habituée, je dirais presque que pour moi, c'est mon état normal. Et pourtant, quand j'y réfléchis, je sais que ça ne peut pas durer. Mais quand j'ai su, il y a quelques semaines, que je ne repasserai pas mon bac, la pression est redescendue. Et je commence déjà à manger plus, c'est-à-dire au moins 2 repas par jour, le midi et le soir. J'essaie de déjeuner aussi, mais j'ai encore du mal. Donc pour moi, la terre nourricière permet de récolter des produits qui servent de base à mon alimentation, qui elle-même agit sur ma santé.
Comme le dit le proverbe, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Personnellement, je dirais même, comment tu vas? Pour ça, j'ai quelque chose à vous faire écouter.
J'ai commencé à manger du chocolat ou n'importe quoi d'autre quand l'être que j'attendais impatiemment, que j'attendais plus que tout au monde, est parti. Depuis cet événement, je suis beaucoup plus émotive. Dès que je déprime, je m'isole dans un coin et je mange. Dans ces moments-là, si je ne mange pas pour me calmer, j'ai les nerfs qui montent. Je me mets hors de moi, je deviens agressive et je finis par pleurer. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à prendre du poids. Avec le chocolat, je calme mes nerfs de façon radicale. J'ai l'impression que je les nourris en quelque sorte. Bien que manger me fasse du bien, j'aimerais que cette situation change. Car en prenant du poids, je sens que je me fais aussi du mal. Cet événement a réveillé une vieille habitude endormie au plus profond de moi. Je me souviens que, étant petite, lorsque j'étais triste ou pas contente, mon père me ramenait des barres chocolatées pour me consoler, et ça marchait à chaque fois. Je crois que j'associe le chocolat à mon enfance. Quand mes frères et sœurs m'embêtaient, que mon seul réconfort était les barres chocolatées de mon père. Avec moi, la nourriture est trop souvent liée aux sentiments. Et en ce moment, je sens que mon corps me demande du changement. Qu'est-ce qu'on entend là? Mais c'est que ça bosse là-dedans.
Oui, c'est impressionnant toute cette agitation. Ce sont les abeilles en plein travail. Afin d'étouffer notre mission sur la terre nourricière, nous avons rencontré Isabelle. Et plus particulièrement, nous avons rendu visite à ces abeilles qui cultivent la biodiversité.
Ça travaille, ça bouge dans tous les sens.
Ils sont dans un gros cube. Après, dans le cube, il y a aussi plein de cadres, je dirais peut-être des tiroirs, placards. Et dedans, il y a des abeilles qui sont dans une alvéole.
La cire, hein, c'est une sécrétion qu'elles ont à un moment de leur vie et elles peuvent construire ces alvéoles en cire.
C'est un travail d'artiste.
Et vous vous rendez compte comme c'est régulier? C'est d'une régularité.
Bien ordonné. C'est comme s'il y a des mathématiciens parmi eux.
Voilà.
Ça grouille. Hein. Oh, les œufs, on les voit?
Oui, c'est là. Beurre blanche.
Ah ouais? Voilà, vous les voyez. Ici peut-être.
Ah, tout ce qui n'est pas bouché, c'est là.
Il y a du pollen là, il y a du pollen là.
Voilà.
Ah oui, regardez sur leurs pattes.
Voilà,
génial,
elle transporte le pollen sur leurs pattes. Vous
voyez celle qui a les pattes jaunes là?
Ici, elle a deux petites boules de pollen accrochées sur les pattes. Et puis après, elles vont les ranger là. Ou là. Et puis là, qu'est-ce que vous voyez ici? Voilà. Au milieu là, c'est là où la reine pond, où il y a les bébés. Autour, c'est le garde-manger où elles mettent les réserves de miel.
Il y a une reine dans chaque ruche ou une pour toutes les ruches?
Il y a une reine dans chaque ruche. Hein? La reine, dans une ruche, c'est la seule qui pond. Toutes les autres, les ouvrières, là, elles font des tas d'autres travaux, mais elles ne peuvent pas pondre. Elles sont stériles.
Oui, mais je l'ai vu. C'est pas ça? C'est pas la reine ou...
Mais si, bravo! Dis donc, oh, mais tu vas devenir apiculteur, toi, regardez là. Hein? Bravo! Voilà, hein, elle a la même tête, le même thorax, les mêmes ailes, mais son abdomen est plus long. Alors, si vous avez de la chance, elle va pondre. Donc, elle va introduire son abdomen au fond d'un alvéole et elle va déposer un œuf au fond. On va voir si... Ah, pas de chance, il pleut.
Elle pond combien de fois par jour?
C'est pas régulier. En hiver, elle s'arrête de pondre. Mais au printemps, elle peut pondre jusqu'à 1000 œufs par jour.
Si la reine meurt, on fait comment? Il faut bien qu'il y ait une reine pour diriger.
Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont sentir, elles sentent que la reine est là. Si la reine est morte ou si elle a attrapé une maladie ou... Elles vont sentir son absence. Donc elles vont se dire, il faut qu'on élève une autre reine. Donc, alors, elles vont prendre un œuf et le mettre dans une cellule plus grande. La cellule royale. Et elles vont remplir cette cellule d'une autre nourriture. Ce ne sera pas du miel. Voilà. Hein, c'est cette fameuse gelée royale. Et le fait que l'œuf et la larve, pendant tout son développement, va être nourri avec de la gelée royale, eh ben, ça va faire un insecte qui va être fertile, qui va pouvoir pondre des œufs, être fécondé, pondre des œufs, et qui va vivre très très longtemps par rapport à une ouvrière.
On voit un tapis d'abeilles mortes au sol devant la ruche.
Ils sont morts pourquoi ?
C'est un empoisonnement.
Pourquoi cette disparition des abeilles peut être dangereuse pour nous ?
Ben, d'abord, il y a une raison toute simple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il n'y aura plus de miel. Hein, je vous dis déjà que j'ai beaucoup moins de miel qu'avant, donc ben, j'ai augmenté le prix de mon miel. J'en ai moins et de quantité, et il faut que j'arrive à en vivre. Donc le miel, ça va devenir un produit de luxe. Ça va être réservé à certaines personnes qui pourront se le payer, et tout le monde ne pourra pas se payer du miel. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que les abeilles, quand elles vont sur les fleurs butinées pour prendre le nectar, c'est-à-dire cette espèce de sirop sucré dont elles font le miel, en même temps, elles transportent le pollen, vous savez, la poudre qu'il y a sur les fleurs, la poudre jaune, elles la transportent d'une fleur à l'autre. Et en faisant ça, ça permet d'avoir des fruits, ça s'appelle la pollinisation. D'ailleurs, il y a des arboriculteurs, des cultivateurs d'abricotiers, de cerisiers, mais même aussi de légumes, les tomates, les aubergines, qui me demandent de mettre mes ruches chez eux. Donc je porte mes ruches chez eux et ça pollinise leur culture et ils ont beaucoup plus de résultats et des fruits et des légumes mieux formés.
Et oui, la pollinisation, mon frère. C'est grâce à ça que tu manges aujourd'hui.
Radio.
Potage.
Radio.
Partage.
Pour parler des racines et des origines.
No, 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 no. Oh, yeah.
Pour que les arbres et les plantes s'épanouissent, pour que les animaux qui s'en nourrissent prospèrent, pour que les âmes vivent, il faut que la terre soit honorée. Pierre Rabhi.
C'est quand j'ai rencontré ma mère et mes origines que j'ai commencé à toucher la terre. J'ai grandi à La Réunion, chez mes grands-parents paternels. Adolescent, ils m'ont ramené à Mayotte. J'ai pu découvrir le coutume de mon pays d'origine, ma langue maternelle qui est le chimaoré, que je ne connaissais pas. C'est là que j'ai connu mes parents, j'y suis resté 3 ans. Je vivais chez ma mère, du coup, mon grand-père avait plus de temps pour lui. J'ai découvert à Mayotte qu'il était passionné par l'agriculture. Un jour, il m'a proposé de venir au champ avec lui. Dans ma tête, j'allais cueillir des fruits tranquilles, les manger et j'allais rentrer chez moi. J'ai découvert qu'il s'y connaissait vraiment bien en agriculture. Avec lui, j'ai planté plein de belles choses que je ne connaissais pas. J'ai pu l'aider à planter des salades, des tomates, des maniocs, des bananes, des graines d'oranger. Je creusais un trou, je mettais les graines dedans, je recouvrais la terre, je mettais de l'eau et puis je posais l'engrais. Naturel, sans chimique. Et à la fin, je ne sais pas comment, mais les fruits étaient trop sucrés. Je ne sais pas comment, mais ils étaient bons. Plus qu'au supermarché en tout cas. Il m'a toujours appris à ne jamais utiliser d'engrais chimiques. J'ai vraiment commencé à toucher la terre et c'est grâce à lui que j'ai réalisé l'importance de la respecter. À La Réunion, où j'habitais en centre-ville, le fait de voir l'homme dans un environnement différent, ça m'a vraiment ébloui. C'est beau de voir ces hommes qui travaillent à l'ancienne. Mon grand-père m'a aussi transmis le goût des aliments. Depuis, j'ai changé ma façon de me nourrir. Avant cette expérience, je ne prenais pas le temps de bien manger ou de cuisiner sainement. Pour moi, la terre est précieuse. La conserver et en prendre soin, c'est définir notre bonheur de l'endroit d'où l'on vit. La Réunion, ça manque trop, mais grave.
Si je retourne, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup plus à l'agriculture. Ça me fait penser au mois de décembre, il y a tous les fruits en vente sur le marché. Les litchis, les ananas Victoria, les longanis, les mangues, la papaye. Et il y a une bonne odeur. Juste d'en parler, ça me fait du bien. Même si la réunion me manque particulièrement, j'accorde plus d'importance aux coutumes de Mayotte, car ça fait partie de mes origines malgré tout. C'est sentimental, c'est tout.
Merci pour ce voyage à Mayotte. Maintenant, il nous faut retourner en ville pour continuer l'émission. Allez, on y va ! On vous emmène ! Mais elle est où, la terre ?
Mais c'est tout bétonné, y a pas moyen de creuser.
Si tu viens manger chez moi, je te cuisine pâte, steak, crème gruyère. Quand j'habitais chez mes parents, c'était mieux car la nourriture était variée. Beaucoup de légumes et des plats réellement cuisinés. Ma mère est cuisinière. Elle achetait toujours des bons produits. Elle allait au marché le dimanche pour les produits frais, les fruits, les légumes et aussi la viande. On prenait le temps d'apprécier, c'était vraiment un moment convivial en famille. Aujourd'hui, je me rends compte du précieux de ces moments. Depuis que j'habite seule, c'est dur de bien m'alimenter. Moi, je fais les courses au supermarché. Et les légumes, ils sont pas toujours de bonne qualité. Et ils sont pas toujours de saison non plus. Ça me rassure pas vraiment, surtout pour ma santé. J'avoue que je choisis souvent la facilité. Pour deux raisons. Le temps et l'argent. Les produits bio restent quand même très chers. Pas abordable pour moi. Et comme je suis seule, j'ai pas envie de cuisiner à part quelque chose de rapide. Et parfois, je mange pas. Franchement, la vie ne me pousse pas à me rapprocher de la terre nourricière. J'ai toujours vécu en ville, loin de la nature, mais dans mon esprit, je garde une sensation agréable de la campagne. J'ai quand même vécu un an en campagne avec ma meuf et c'était génial. On mangeait que du bio et des plats cuisinés. C'est sa mère qui cuisinait pour nous. Les aliments n'étaient pas toujours à mon goût, mais je sentais que mon corps était en super forme. Pour moi, tout ça, c'est pas possible en ville. Même si j'aime mon indépendance, j'ai du mal à gérer mon alimentation et à bien manger. J'avoue que ça me manque les bons repas en famille.
Pour préparer cette émission, nous avons aussi rencontré Jocelyne, qui cultive des légumes bio. Ce qu'elle aime, c'est nourrir les gens avec des produits sains.
Et ouais, tout est naturel là-bas. Le cheval qui désherbe, les coccinelles qui mangent les pucerons, le fumier pour enrichir le sol, et même les bourdons qui aident à la pollinisation des tomates. Et avec tout ça, elle cultive plus de 100 variétés de fruits et légumes. Trop forte, sa femme. Elle a vraiment peur de rien.
Alors bonjour à tous. Bienvenue à la Roustide.
Bonjour.
Derrière moi, il y a le planning de culture. Ça veut dire qu'il y a 100 espèces sur l'exploitation, 140 variétés à l'année. Il est interdit pour nous de remettre de la courgette au même endroit qu'on en a mis l'année dernière. Parce que la deuxième année, on est sûr que la maladie sur les racines va se développer. Et vous imaginez que si ma racine elle est malade, eh bien, ma plante elle va pas être jolie quoi. Et elle va pas me donner beaucoup de courgettes. Donc il faut faire des rotations. Il y a la courgette dessus. Vous la voyez la courgette en dessous de la fleur?
Ah, j'avais pas vu.
C'est là la fleur mâle. La fleur mâle, celle qui est sur une tige, qui ne fait pas de fruits. Dans la main, j'ai une fleur
mâle.
Une fleur mâle, oui. Alors je vais l'écarter et je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. C'est pas tout à fait la même chose dans la fleur mâle. Donc vous avez le pistil, ce qu'on appelle le pistil, c'est comme chez un homme, hein, c'est pareil. Vous voyez, c'est le même principe. Hein, on n'a rien inventé dans les plantes, c'est aussi comme des humains. Et dans la fleur femelle, ce que ça s'appelle l'étamine, où là il y a beaucoup, beaucoup de petites tiges. C'est comme chez la femme, il y a beaucoup de petites formes. C'est exactement pareil. Moi, ma courgette, je la plante. Celle-ci a été plantée environ vers le 15. A été plantée le 15 février. Moi, je vais aujourd'hui sur une courgette bio la conserver à peu près jusqu'à fin juin, celle-là.
Moi, je mange pas beaucoup de fruits et légumes parce que au supermarché, ben, les fruits et légumes, ils sont pas tellement bons. Ouais. Les produits qui sont bio au supermarché, ils sont chers. Et pour ce qui est de nous, les jeunes, on n'a pas forcément les moyens d'acheter ça directement au supermarché.
Je nie complètement que le bio est plus cher. Tu achètes un kilo de courgettes en bio, ça vaut 2 euros. 2,20 euros, je ne sais pas, à peu près les prix. Quand tu l'as fait cuire, au bout de 10 minutes, tu as laissé la peau, tu as simplement lavé, il te reste à manger 800 grammes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, parce qu'il n'y a que de la chair, parce que ça a été ramassé à maturité, à la grosseur voulue, tout a été étudié derrière, quoi. Pour avoir la même chose à manger, pour avoir 800 grammes à manger en pas bio, il te faut acheter 2 kilos à 1 euro, ça fait 2 euros aussi, pour avoir 800 grammes à manger. De là, tu l'auras épluché, parce que tu vas te méfier quand même de ce qu'ils ont mis dessus, et même en te méfiant, même tu en as quand même encore dans la chair, mais enfin ça, les gens ne le savent pas encore trop. Et quand tu vas la faire cuire, c'est 50% d'eau. Parce qu'elle a été forcée pour que ça aille vite, pour avoir beaucoup de rentabilité et tout ça. Et du coup, eh bien, tu manges que 800 grammes. Sans vitamines, parce que tu as retiré la peau.
Pour le même prix au final.
C'est tout à fait ça. Donc il faut y réfléchir.
Mon plat préféré, c'est les pâtes.
Oui, les pâtes.
Du steak. La crème.
Alors tout ça, il faut des paysans. Hein. Pour faire des pâtes, il faut du blé. Le steak, il faut un éleveur parce qu'on ne mange pas du bœuf sans avoir élevé des bœufs. Donc, sur l'exploitation 200 poules pondeuses, je vais vous montrer où elles dorment, où elles mangent. C'est ce qu'on appelle la maison des poules et où elles pondent.
Il y en a une qui est en train de pondre, voilà, elle se cache. Et une fois qu'elles ont pondu, qu'est-ce qu'elles font ?
Elles font tomber l'œuf ?
Oui, l'œuf tombe et après, qu'est-ce qu'elles font quand elles sortent du nid ?
Elles avertissent le nid. Qu'est-ce qu'elles font là ? Elles chient. Ah, c'est les deux, hein. Elles chantent. Hein ? Non.
Ah. Elles chantent.
C'est du chant. C'est victoire.
On a beaucoup parlé d'ici, mais comment ça se passe le rapport de la terre nourricière dans les autres pays ?
Je suis Christopher, j'ai grandi en Centrafrique pendant 17 ans. Au pays, il faut savoir qu'il y a deux voies possibles pour les jeunes comme moi. Ceux qui consacrent leur vie aux études et ceux qui iront au champ pour faire de l'agriculture ou de l'élevage. Là-bas, la terre représente la vie, la santé, la nature. Moi, je faisais partie des gens qui suivaient des études, mais pendant les vacances, j'accompagne ma famille pour le travail des champs. Il y a deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. La saison sèche commence au mois de novembre pour finir à la fin de janvier. C'est à ce moment qu'on plante. La saison des pluies commence au mois de février pour finir en juin. Pendant cette période, la pluie arrose les champs et à la fin, on récolte. Je dirais que le contact avec la terre m'a appris à planter plusieurs choses, comme le manioc, le maïs, l'arachide, les patates, les carottes et les bananes. Au pays, j'ai aussi élevé des poules. L'agriculture, c'est pas facile et si on me demande pourquoi, je dirais parce qu'il faut avoir envie de planter en respectant certaines normes. Savoir creuser, choisir le bon emplacement, les terres les plus adaptées. Il faut aimer ce que tu fais si tu veux bien le faire parce que ça prend du temps d'apprendre. Pour l'agriculture ou d'élevage, ce n'est pas le matériel qui compte, mais l'amour de la terre. Le fait d'être en relation avec cette terre qui symbolise la vie. Durant cette période, j'ai vécu des moments remarquables. J'ai appris à produire moi-même
mes aliments avec ma famille et c'est grâce à la terre. Toutes ces expériences de vie m'ont fait prendre conscience de l'importance d'être en relation avec la terre. Pour moi, la terre est vitale pour nourrir les hommes, mais il arrive parfois que la vie tourne mal. Par exemple, moi j'ai déjà vécu la guerre dans mon pays. Du coup, on manquait de nourriture, je ne mangeais pas à ma faim. Un jour, on a marché 20 km pour trouver à manger et être plus en sécurité. À la ville, les marchés étaient fermés à cause des pillages. Je suis resté jusqu'à 3 jours sans manger. À la campagne, il ne pouvait plus cultiver. Tous ces moments sont des mauvais souvenirs. Aujourd'hui, ce que j'ai vécu me pousse à donner encore plus d'importance à la vie, à la terre pour vivre, car sans la terre nourricière et les agriculteurs, aucune personne ne pourrait survivre. Elle nous aide aussi à avoir de bons aliments, à respirer davantage d'air pur. Je dirais la terre, rien que la terre.
C'est la fin de la journée. Les poules sont couchées, les abeilles sont rentrées. Il est temps pour nous de vous quitter, car c'est aussi la fin de notre émission. On vous remercie de nous avoir suivis.
Pour réaliser cette émission, il y avait les animateurs Anissa et moi-même, les chroniqueurs Sandra, les deux Christopher, Sarah et Enzo, et à la technique, Maëlys et Lambert. On remercie Rebecca du CIVAM, Marvin et Capucine de l'association Wakadi pour nous avoir aidés à réaliser cette émission. Un grand merci à Lydie et à Giovanna de l'école de la deuxième chance de nous avoir suivis depuis le début de la préparation de l'émission.
Et merci aux deux agricultrices Isabelle et Jocelyne de nous avoir fait partager leur savoir et leur passion du métier. Nous repartons avec plein de souvenirs.
Merci, merci.